Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Izet Sikar et Alia Tovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième et dernier épisode de notre série consacrée au chômage. Après avoir parlé de l'invention du chômage comme catégorie au 19e siècle et retracé les étapes qui suivent la fermeture de l'usine, c'est l'utopie de la fin du chômage que nous allons examiner aujourd'hui. La théorie économique s'est emparée de ce sujet depuis bien longtemps déjà, tant le chômage de masse semble s'être installé dans nos sociétés. Est-il pour autant une fatalité ? Et quelles nouvelles approches nous permettent d'envisager et de souhaiter le retour du plein emploi en France ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'utopie de l'emploi pour tous en compagnie de Michel Berry, ancien directeur de recherche au CNRS et fondateur de l'École de Paris du Management, co-auteur de l'ouvrage « Il n'y a pas de fatalité au chômage de masse » publié par le Cercle des économistes. En compagnie également de Dany Lang, économiste, membre du collectif des économistes atterrés et co-auteur de l'ouvrage « L'économie post-keynésienne » publié au Seuil. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho d'Arjuna Andrade et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Michel Berry et Dany Lang, bonjour.
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 Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, la question du chômage a été au cœur de la réflexion des grands théoriciens de l'économie. Et pourtant, rien aujourd'hui ne semble pouvoir enrayer le chômage de masse. Il y a une nécessité, selon vous, Michel Berry, de repenser les causes du chômage et les moyens de lutter contre ce phénomène, au-delà peut-être des méthodes préconisées par l'économie classique.
Oui, ce qu'on voit depuis 30 ou 40 ans, c'est que le chômage empoisonne la vie des gouvernements et du pays, et que c'est une question récurrente, et qu'en général, les remèdes qu'on propose d'apporter relèvent de ce que recommande l'économie classique, c'est-à-dire la croissance qui va faire évoluer les choses, la fluidification du marché du travail, l'allègement des charges, etc. Et force est de constater que, bien qu'on prenne ce genre de mesures, le niveau du chômage ne baisse pas beaucoup, ou fluctue au gré de la croissance. Et donc, il faut vraiment trouver une autre idée.
C'est parce que les remèdes préconisés par l'économie classique ne fonctionnent pas, comme le dit Michel Berry, qu'il faut aujourd'hui repenser la lutte contre le chômage, Dany Lang.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ceci étant dit, ça relève plus de l'économie néoclassique, parce que les grands classiques du 19e siècle, du 18e siècle, étaient beaucoup plus mesurés que les néoclassiques.
Dans quel sens ?
Par exemple, Ricardo, Marx ne proposaient pas du tout les mêmes remèdes au chômage que le proposent aujourd'hui nos économistes néoclassiques.
Quelle est la différence, par exemple, en quelques mots ?
Alors, les néoclassiques proposent par exemple de fluidifier le marché du travail, c'est-à-dire de faciliter les licenciements. Chez les néoclassiques, il y a une négation complète des rapports de force sur le marché du travail, alors que aussi bien Smith que Marx et Ricardo étaient tout à fait conscients de l'existence de ces rapports de force. Il y a des passages d'Adam Smith qu'on attribuerait volontiers aujourd'hui à un leader d'extrême gauche, quoi. Il a écrit quand même « Ne donnez pas le pouvoir au patron », il a écrit ce genre de choses.
Alors, peut-être qu'il faut cesser de s'appuyer sur la catégorie même de chômage en tant qu'outil de représentation. Quelles sont les limites aujourd'hui de cet outil, Michel Berry ?
Alors, pour bien comprendre les limites des approches classiques de l'économie, je crois qu'il faut prendre une clé d'analyse qui est celle de Pierre-Noël Giraud dans son livre « L'homme inutile » qui distingue plusieurs types de modes de production. Il y a les productions exposées à la concurrence internationale, qu'il appelle les productions nomades, c'est-à-dire l'industrie, le tourisme, tout ce qui peut se partir du pays si c'est plus efficace ailleurs, et les productions protégées et qu'il appelle sédentaires, les coiffeurs, beaucoup de choses, les médecins, donc des gens qui sont pas menacés par la concurrence de l'étranger. Ça veut pas dire qu'il y a pas de concurrence entre elles, mais si quelqu'un perd son activité, un autre le reprendra. Et ça, donc, il y a les producteurs nomades, les producteurs sédentaires, et il y a une dernière catégorie qu'il appelle les inutiles. C'est ceux à qui on dit, on n'a pas besoin de vous. C'est les chômeurs, c'est les jeunes qui ne trouvent pas de travail, etc. Et donc, à partir de ces trois niveaux, on peut développer une analyse beaucoup plus pertinente de la question du chômage.
Alors justement, vous parlez de Pierre-Noël Giraud. En effet, selon l'économiste, la globalisation de l'économie a créé ces hommes inutiles. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Dominique Rousset dans les carnets de l'économie le 11 novembre 2015.
Je me suis demandé quelle était la pire des formes d'inégalité, et c'est à mon sens l'inutilité. C'est-à-dire des gens qui sont inutiles à eux-mêmes parce qu'ils sont inutiles aux autres. Ce sont, en Europe par exemple, les chômeurs de longue durée, les jeunes qui ne peuvent pas entrer sur le marché du travail, et puis tous ceux qui sont dans un enchaînement de travaux, de petits boulots précaires et qui n'ont aucun moyen de s'améliorer. Voilà. Je suis parti de Amartya Sen qui dit qu'est-ce que c'est que le minimum de justice économique ? C'est que chacun ait la possibilité de se former, d'apprendre de manière à obtenir la vie, Sandy, qu'il a raison de vouloir. Voilà. Donc, c'est ça qui est fondamental. Les hommes inutiles, c'est ceux qui ne peuvent en aucune façon par eux-mêmes, qui sont dans des trappes, qui sont coincés et qui ne peuvent pas, quoi qu'ils fassent, obtenir la vie qu'ils ont raison de vouloir avoir.
Michel Berry, comment expliquer l'émergence de ces nouveaux damnés de la Terre dont parle Pierre-Noël Giraud ?
Mais c'est lié à la globalisation en large partie. Par exemple, le nombre de travailleurs nomades, la proportion diminue progressivement au fur et à mesure qu'elles augmentent dans les pays en voie de développement. Donc quand un nomade perd son emploi, il se retrouve sur le marché des sédentaires. Et puis par ailleurs, quand les sédentaires perdent son emploi, il se retrouve parmi les inutiles. Et donc c'est en partie lié à ça et aussi aux efforts de productivité.
Alors, je rappelle que l'expression d'homme inutile avait choqué à la sortie du livre en 2015. Et dans cet ouvrage, Pierre-Noël Giraud cite Joan Robinson, qui dès 1962 assurait la misère d'être exploité par les capitalistes n'est rien comparé à la misère de ne pas être exploité du tout. Le risque, selon Pierre-Noël Giraud, c'est de se trouver en effet pris dans des trappes d'inutilité dont il est difficile de sortir. Alors, comment est-ce qu'il faut éradiquer ces trappes ? Est-ce qu'il faut développer davantage ce qu'il appelle la production sédentaire plutôt que la production nomade?
Alors, les remèdes de Pierre-Noël Giraud sont simples. Il faut absolument développer la production nomade, c'est-à-dire celle qui est exposée à la concurrence internationale. Et là, les remèdes des économistes sont pertinents. La croissance fera du bien. Il faut pas que les entreprises aient des boulets aux pieds pour se battre à armes égales avec celles d'autres pays. Donc ce que recommandent les économistes, ce que fait le gouvernement depuis quelque temps, c'est tout à fait pertinent pour développer l'économie nomade. Et en plus, quand l'économie nomade se développe, ça crée des emplois dans l'économie sédentaire, ça sort des gens des trappes d'inutilité. Donc là, les remèdes de l'économie sont très pertinents. Mais Pierre-Noël Giraud et son thésard Philippe Franquin a étudié la proportion des travailleurs nomades et des travailleurs sédentaires, et il a montré qu'il y avait 27% de personnes impliquées dans des activités nomades en France et 73% dans des activités sédentaires. La proportion décroît depuis un certain temps, c'est lié à la montée des pays en voie de développement, et elle est à peu près équivalente aux États-Unis ou en Allemagne. Dans tous les pays, finalement, les activités nomades sont minoritaires, voire très minoritaires.
Et pour autant, il veut quand même qu'on développe les activités nomades et pas d'autres activités du côté, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, qui s'est beaucoup développée ces
justement,
dernières années.
Donc il est bon de développer l'économie nomade, mais il reste 73%. Et c'est parmi, bien sûr, ces 73% qu'on va pouvoir créer des emplois ou sortir des gens de trappes d'inutilité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, le problème, c'est que l'économie classique ne comprend pas bien ces 73% restants. Il y a une partie qui sont des entreprises dans les commerces, qui sont régies par des règles de concurrence, des PME. Donc là, l'économie est à peu près opérante, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités. Il y a par exemple tous les emplois publics, de fonctionnaires. Il y a plusieurs millions de fonctionnaires. Alors au jour d'aujourd'hui, on a l'air de dire que c'est des boulets, que c'est des emplois presque superflus. En fait, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont un emploi digne, noble et utile, et la théorie économique a l'air de ne pas s'en rendre compte. Il y a aussi la santé, domaine formidable de développement. avec la difficulté en France que le développement de la santé pose un problème d'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Et pourtant, voilà un marché qui crée des activités sédentaires, dignes. Le dévouement des infirmières est extraordinaire. Elles y trouvent une dignité. Et donc, c'est un marché important.
On va voir toutes les méthodes, Dany Lang.
De compléter ce que vous dites, on a aujourd'hui ce discours qui est très dominant dans les médias, qu'on entend tout le temps face auquel vous érigez en faux, consistant à dire que les fonctionnaires sont improductifs, qu'ils ponctionnent les ressources de l'État, etc. Je voudrais rappeler qu'indépendamment de tout ce que vous signalez, c'est faux comptablement, puisque la production d'un fonctionnaire rentre dans le PIB. Comment est-ce qu'on estime la production d'un fonctionnaire? C'est très difficile d'estimer la production d'un pompier, d'un policier ou d'un enseignant, eh bien on prend son salaire et ça rentre dans la création de richesse. Donc ça n'est pas un secteur stérile qui ne crée pas de richesse, c'est un secteur qui crée de la richesse au même titre que le privé. Nous sommes d'accord là-dessus.
On va voir qu'il y a énormément de méthodes différentes, mais je voudrais qu'on revienne justement à la façon de quantifier le chômage. C'est important, Michel Berry, pourquoi? Parce que...
C'était juste, je voulais compléter un point, c'est qu'il y a outre la santé, il y a tout un secteur de mélange de subventions, de bénévolat et de marché qui est le monde de l'économie sociale et solidaire, le monde de la vie associative, qui a longtemps été considéré de haut par les entreprises qui voyaient des activités pour le week-end, pour les papys, et alors que ça représente une part importante des emplois et qui est pas bien compris par la théorie économique, voire considéré comme une activité un peu nuisible.
Alors, est-ce qu'il faut parler de taux d'emploi? Est-ce qu'il faut parler de taux de chômage? Comment quantifier le nombre de chômeurs en France? C'est une question compliquée. Le démographe Alfred Sauvy écrivait en 1938 que l'élasticité du mot était telle que, suivant la définition posée, le nombre de chômeurs pouvait varier de 200 000 à 2 millions. Et aujourd'hui, des institutions comme l'OCDE ou la Commission européenne parlent de plus en plus du taux d'emploi plutôt que de taux de chômage. Est-ce que c'est lié à la volonté de ramener de plus en plus de chômeurs, mais aussi d'inactifs vers l'emploi, dans une perspective peut-être de protéger l'équilibre financier des systèmes de protection sociale?
Il faut faire attention effectivement au chiffre du chômage. Déjà, le chiffre du chômage ne dit rien concernant la qualité des emplois occupés. Alors justement, si on veut, personnellement, je pense que le plein emploi est possible et que ça doit être un plein emploi de qualité. Pas des petits boulots, mal payés, à temps partiel contraint, etc. Ceci étant dit, le chiffre du chômage reste utile. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce chiffre du chômage? Vous savez qu'en France, il y a 5 catégories A, B, C, D, E de chômeurs. Et celle qu'on remet sans cesse dans le débat public, c'est la catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui sont tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, qui sont à la recherche d'un contrat de travail et qui n'ont pas exercé une activité réduite lors du mois précédent. Vous allez donner un coup de main pendant quelques heures, paf, vous passez en catégorie B, et donc vous ne rentrez pas dans le chiffre du chômage dont on débat à la télé. Il y a les chômeurs découragés, c'est-à-dire c'est un nombre non négligeable de chômeurs. On évoquait tout à l'heure, avant d'entrer en antenne, 10 millions de personnes aux États-Unis, c'est ça, 10 millions de chômeurs découragés. En France, ils sont, c'est toujours très difficile à quantifier, mais c'est les gens qui, ne trouvant pas d'emploi, cessent de chercher.
10 millions de chômeurs découragés aux États-Unis?
Oui.
Parce que les États-Unis sont censés être au plein emploi.
Oui, oui, mais écoutez...
plus quelques millions en prison.
Oui, donc voilà. Donc vous avez aussi un certain nombre de gouvernements. On a vu ça par exemple au Danemark à partir des années 90, quand ils ont mis en œuvre la flexisécurité. Vous avez aussi un certain nombre de gens qu'on passe de chômeurs à handicapés, parce que ça les fait sortir du chiffre du chômage. Donc il y a un enjeu politique autour de ces chiffres du chômage. À mon sens, ils ne sont pas si mauvais si on a à l'esprit qu'il y a des chômeurs découragés qui s'en vont du marché du travail quand ça va moins bien et qui y reviennent quand ça va mieux. Et si on prend en compte les catégories A, B et C, c'est-à-dire si on prend en compte ceux qui ont travaillé quelques heures mais qui n'ont pas un emploi à temps plein. Et là, on est à 5,5 millions de chômeurs dans notre pays.
Michel Berry, il faut prendre avec précaution ces chiffres.
Alors, je voudrais juste revenir en arrière sur les entreprises et le reste. Aujourd'hui, on entend souvent à la télévision, je crois que ça a été affirmé dans la lettre du président de la République, que ce sont les entreprises qui créent les emplois et implicitement les autres les consomment. Les fonctionnaires, les associations, etc., la culture, et que donc en période de crise, il faut quand même pas trop consommer, donc faire des économies sur le reste. Et je crois que c'est une idée profondément fausse. Ça, c'est le point. Et donc on aura l'occasion d'y revenir. l'avenir. Le deuxième point, c'est que je pense que le nombre de chômeurs est un indicateur intéressant, mais que les remèdes à la situation actuelle procèdent d'une autre idée qui est éradiquer l'inutilité. Faire en sorte que personne ne se sente inutile et seul. Les deux mots de la société aujourd'hui, c'est la solitude et l'inutilité.
S'il m'est permis de rebondir sur ce que vous disiez, j'irai même plus loin. Toutes ces personnes, non seulement comptablement, contribuent à la création de richesses, mais il ne faut pas oublier que le fait qu'elles soient en emploi leur permet de payer leur loyer, leur permet d'aller manger, leur permet de consommer.
Ils participent ainsi à l'activité économique.
Ils participent à l'activité économique. On les présente comme des nuisibles. Déjà, comptablement, c'est faux. Et en plus, on oublie complètement les effets induits qu'ont ces emplois.
Alors, est-ce que vous diriez, Michel Berry, que ce concept de chômage, il est affaibli aujourd'hui et peut-être aussi par la montée des préoccupations autour de la qualité des emplois? Dany Lang commençait à en parler, c'est la question des travailleurs pauvres qui relativise, semble-t-il, les bonnes performances en termes de chômage de pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre.
Si on prend un exemple aujourd'hui, les gilets jaunes ne sont pas au chômage et pourtant, ils correspondent presque à la définition de l'homme inutile de Pierre-Noël Giraud, puisqu'il dit « je travaille et je n'y arrive pas ». Donc, ils n'arrivent pas à maîtriser leur destin. Donc, en fait, le chômage, c'est un indicateur intéressant. Mais je pense que trouver des remèdes aux problèmes aujourd'hui sera beaucoup plus efficace si on raisonne en termes d'éradiquer l'inutilité.
L'un des remèdes qui est proposé par le gouvernement, c'est un plus grand contrôle des chômeurs. En France, un décret a été publié au Journal officiel fin décembre qui renforce les sanctions contre les demandeurs d'emploi qui manqueraient à leurs obligations. Et pour le sociologue Jean-Claude Barbier, le renforcement des contrôles ne favorise pas justement le retour à un emploi de qualité. On l'écoute.
Ce qui explique le fait qu'on retrouve de l'emploi, c'est le fait qu'il y ait des offres en qualité suffisante, c'est le fait que les gens soient bien conseillés, c'est le bon fonctionnement du marché du travail, tous ces éléments-là qui sont pas du tout changés fondamentalement par l'idée de prendre des critères plus féroces. Le suivi est plus fréquent aujourd'hui, c'est indéniable. Ceci dit, en passer à un véritable suivi individualisé, c'est une autre chose. Et quand on aurait encore fait ce suivi individualisé, comme il se fait par exemple dans les pays scandinaves ou même en Angleterre, on tomberait quand même sur la question des personnes les plus difficiles à placer. Parce que les premières réussites des Anglais, c'est sur la partie la plus facile. Ensuite, la question, c'est les gens qui sont difficiles à placer. Et les gens qui sont difficiles à placer, c'est des gens qui sont peu formés, c'est des gens qui ont eu des accidents de parcours professionnel. Et ces gens-là, on ne les met pas en position de travailler chez n'importe quel employeur. Donc, il est plus facile de déclarer qu'on va être plus strict avec les chômeurs que de réaliser leur réel placement.
Alors, dans la lignée des propos de Jean-Claude Barbier, les syndicats estiment que le nouveau décret sur le contrôle des chômeurs pousse les gens à prendre des emplois dégradés. Qu'est-ce que vous en pensez, Dany Lang?
Alors déjà, cette logique consistant à contrôler toujours plus fort les chômeurs, etc., moi j'en serais d'accord si on était au plein emploi. Mais il faut quand même regarder les chiffres, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On a un président de la République quand même qui nous raconte des âneries du café du commerce. Quand on prend les chiffres de la DARES, c'est-à-dire du ministère du Travail, vous avez en gros 150 000 emplois vacants, c'est-à-dire qui cherchent preneurs dans les entreprises de plus de 9 salariés. 155 000 emplois vacants contre 5,5 millions de chômeurs de catégorie A, B et C. Donc vous pourrez toujours pousser les personnes à prendre n'importe quoi. Déjà dans l'état actuel des choses, 97% des emplois vacants trouvent preneurs dans l'année.
Donc cette mesure est avant tout quoi, politique, idéologique.
Démagogique à mon sens.
Michel Berry.
Ben, je sais pas si on étudie la vie d'un chômeur, plutôt un chômeur de longue durée, s'il fait ce que pour l'emploi lui dit de faire, il passe son temps à envoyer des CV, des lettres de motivation auxquelles on ne répond pas. Il n'est même pas un numéro, on ne lui répond pas. Il fait des entretiens d'embauche, il se rend compte qu'il est un parmi 15 dans la salle d'attente et donc ça ne marche pas. Et moi j'en ai vu plusieurs. Au bout d'un moment, ils arrêtent de chercher de l'emploi. Alors est-ce qu'il faut les punir? Ils sont peut-être simplement découragés, effondrés. Et le film La loi du marché, qui avait eu un certain un succès il y a un certain temps, montre assez bien la vie des chômeurs. Alors qu'il y a des chômeurs, des gens au chômage qui arrêtent de faire des démarches, moi je trouve ça absolument naturel. Est-ce qu'il faut les punir? Je trouve que c'est rajouter. Alors il y a quelques bricoleurs, il y en a quelques-uns qui s'arrangent, il y a surtout dans les gens qui restent pas très longtemps au chômage, il y a quelques petits malins, mais en fait la grande masse est désespérée.
Mais ça participe en tout cas de cette vision du gouvernement qui parle régulièrement d'une société du travail. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? On voit que la question du travail aujourd'hui elle est centrale dans le discours, dans la rhétorique d'Emmanuel Macron.
Oui, dans la rhétorique, mais pas dans les faits. Quand on veut faire repartir l'emploi, on commence pas par serrer la vis en matière de dépenses publiques, on fait le contraire. On fait le contraire, il faut être cohérent. Moi, honnêtement, une fois de plus, si on était dans une société de plein emploi, où on avait quelques profiteurs, pourquoi ne pas les traquer? Mais là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. On a des gens qui sont découragés, on n'a pas assez d'emplois vacants pour le nombre de chômeurs qui sont là.
Alors, nous parlions des différents économistes qui ont réfléchi à cette question du chômage et du plein emploi. Il faut évidemment citer John Maynard Keynes, qui lui croyait à l'avènement d'une société de loisirs et d'abondance. Écoutons un extrait de sa lettre à nos petits-enfants publiée en 1930.
Pour la première fois depuis sa création, l'homme sera confronté à son vrai problème permanent. Que faire de sa liberté arrachée à l'urgence économique? Comment occuper les loisirs que la science et l'intérêt composé lui auront gagnés pour mener une vie judicieuse, agréable et bonne? Les gens d'affaires qui œuvrent de toutes leurs forces pour des objectifs peuvent nous entraîner avec eux dans l'abondance économique. Mais seules les personnes aptes à garder vivace, à cultiver, à perfectionner l'art de vivre sa vie, au lieu de se vendre pour la gagner, pourront jouir de l'abondance quand elle viendra. Aucun pays, aucun peuple, me semble-t-il, ne peut envisager l'âge du loisir et de l'abondance sans effroi. Trop longtemps, on nous a formés pour l'effort et contre le plaisir. Pour l'individu ordinaire qui n'a aucun talent spécial, notamment s'il n'est plus enraciné dans le terroir, la coutume ou les conventions bien-aimées d'une société traditionnelle, s'occuper est un redoutable problème. Avec un peu d'expérience, j'en suis sûr, nous utiliserons l'abondance nouvelle de la nature tout autrement que le font les riches aujourd'hui. Et notre projet de vie sera très différent du leur. Nous veillerons à étaler au maximum notre beurre sur le pain, à partager le plus largement possible le peu d'emploi qui restera. La journée de 3 heures, la semaine de 15 heures pourrait régler le problème pour longtemps.
Un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Keynes croyait à la possibilité d'une société dans laquelle travailler 15 heures par semaine suffirait à répondre aux besoins. Alors on en est évidemment très loin, Michel Berry.
Non, on y est complètement. Alors si on regarde sur la durée d'une vie d'une personne, le temps de travail d'une personne dans sa vie, c'est à peu près 8%. Du total de sa vie, c'est 10% du total de sa vie éveillée. Donc ça fait à peu près 15 heures par semaine. À l'époque de Keynes, les gens commençaient plus tôt à travailler, finissaient plus tard, mouraient plus jeunes.
Oui, la solution, ça ne va pas être de faire travailler les gens, les enfants et les personnes âgées, oui, Michel Berry.
Oui, en fait, j'ai entendu dans une de vos récentes émissions que du temps de Napoléon, les gens travaillaient 70% de leur vie. Au début du XXe siècle, 40% du temps de leur vie, et maintenant 10% du temps de leur vie. Donc Keynes ne s'est pas trompé. Il n'y a pas besoin de beaucoup travailler en proportion de sa vie pour fournir tout ce dont la société a besoin. Mais simplement, ce n'est pas réparti comme il l'avait dit.
Il s'est quand même trompé sur un point. Moi, j'aime beaucoup Keynes, je suis un économiste keynésien, je m'en revendique. Ceci étant dit, il s'est quand même trompé sur un point. Il pensait qu'on allait résoudre le problème économique, on allait assurer le plein emploi pour tout le monde. On résout ça, et puis après, on s'occupe des choses importantes dans la vie, les bons vins, l'amour, la culture. C'est une vision intéressante, mais on en est loin.
Je ne vois pas les choses comme vous. Il dit on arrivera à résoudre le problème économique que si on met en avant les arts de la vie, les relations entre les hommes, et il parle aussi de la religion. Et qui disait le problème, c'est que la théorie économique, l'économie risque de rester au premier plan. Et il conclut la fin de son essai, si un jour les économistes pouvaient être aussi compétents et modestes que les dentistes, ce serait parfait. Et qu'ils acceptent d'être à la seconde.
la semaine dernière dans cette émission.
Alors justement, cette idée qu'il faudrait partager le travail, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend régulièrement, parce qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde, c'est une idée qui continue à faire débat parmi les économistes. Quel est votre regard là-dessus, Michel Berry? Est-ce que réduire le temps de travail peut vraiment permettre de réduire le chômage?
Je peux revenir sur les loisirs. En fait, Keynes disait que les gens auraient du mal à occuper les loisirs. Là, il s'est un peu trompé. C'est que les gens ont vraiment de quoi occuper leurs loisirs par Internet et tout ça, et que ça leur... Mais que c'est des facteurs de dépenses. Et beaucoup occupent leurs loisirs en dépensant. Finalement, les loisirs ont été marchandisés, alors que dans la société française, la légitimité vient du fait d'avoir un travail productif. Mmh. Ceux qui n'ont pas un travail productif ne sont rien.
Et sur le partage du travail?
Sur le partage du travail, moi, je ne crois pas du tout que ce soit une bonne idée, pour la raison suivante. Les nomades... Si on retient la distinction entre les nomades et les sédentaires, les nomades sont des gens qui sont confrontés à une concurrence très dure. Leur demander de travailler moins, c'est les tuer. C'est d'abord, en plus, ils en ont pas envie. Imposer des horaires réduits à des activités exposées à la concurrence, c'est carrément les tuer. Donc c'est une idée stupide, puisque l'activité...
Dans un contexte de mondialisation,
dans un contexte
ça n'est pas
de mondialisation.
Possible.
En revanche,
je suis en désaccord.
En revanche, travailler à une diminution de l'horaire du travail dans la partie sédentaire, là oui, c'est possible.
Mmh. Dany Lang.
Alors je suis en désaccord avec vous sur ce point, et pour une raison très pragmatique, je pense que dans les 30 ou 40 dernières années, les seules politiques qui ont vraiment... permis de créer de l'emploi dans ce pays, 350 000 à 400 000 emplois, selon les études, entre autres de la Banque de France, c'est les lois Robien et les lois Aubry. Donc, il n'a jamais été question d'interdire aux gens les 37h30 sous Robien et puis les 35 heures sous Aubry. La loi Aubryen n'était rien d'autre, d'ailleurs, qu'une transposition de la loi Robien. Ceci étant dit, effectivement, pour ce que vous appelez les nomades... il y avait des dispositifs qui étaient pensés pour ça. Oui. C'est plutôt que de travailler moins dans la journée, on va avoir un peu plus de congés, on va avoir des RTT à prendre. La réduction de temps de travail, c'est quand même une tendance séculaire. Ailleurs, ça s'est fait par la négociation. En Allemagne, dans certaines industries, ils en sont 27 heures quand même. Hein. Donc, ça n'est pas négligeable. Les 35 heures, ça s'était fait bien avant dans l'industrie allemande, avant que la France mette ça en œuvre par la loi. La RTT peut aussi se faire sous d'autres formes. Les congés parentaux. On parlait tout à l'heure de tout ce qui dépasse l'économie. Est-ce que élever des enfants, c'est pas quelque chose d'extrêmement important? Eh bien, avoir des congés parentaux, comme ça existe dans les pays nordiques, c'est de la réduction de temps de travail. Avoir du temps de formation, c'est de la réduction de temps de travail. Ça n'implique pas... Les 37h30, les 35h n'ont jamais voulu dire qu'il est interdit de travailler plus. Et d'ailleurs, on a toujours travaillé plus.
Je voudrais qu'on avance un peu, il y a encore beaucoup de questions qu'on doit évoquer.
Je suis quand même pas d'accord. La loi Robien a été mobilisée par les entreprises sédentaires. Et pas du tout pour celle de la concurrence internationale. Les entreprises en concurrence aujourd'hui, on en voit même dans les ETI industrielles, elles ont un problème dramatique, elles n'arrivent pas à recruter de personnel. Si on leur dit en plus, vous allez réduire les horaires du personnel, c'est catastrophique. C'est l'obligation, les 35 heures pour tout le monde, ça c'était pour moi une catastrophe pour les nomades.
Mais vous savez comme moi qu'on a continué en moyenne à travailler 39, 41 heures par semaine. Les gens juste étaient un peu mieux payés.
Alors en tout cas, on peut se demander si tout le monde a véritablement intérêt au plein emploi. C'est en tout cas une idée qui est développée par l'économiste Michal Kaleski, qui est né en Pologne en 1899, qui était fortement influencé par Karl Marx et Rosa Luxembourg. Pourquoi, selon lui, Dany Lang, les patrons, puisque en l'occurrence c'est eux que Kaleski désigne, ont intérêt en réalité à ce que le chômage demeure?
Alors au passage, Kaleski prenait Marx au sérieux et Rosa Luxembourg. Mais c'est avant tout un économiste keynésien. Donc, c'est pas quelqu'un qui voulait renverser le capitalisme, c'est quelqu'un qui voulait l'encadrer et le réguler beaucoup plus fortement qu'il ne l'était à son époque. Donc, pour lui, c'est un article extrêmement intéressant. À mon sens, c'est l'un des meilleurs articles, sinon le meilleur article qui a été écrit en économie. Kaleski nous explique en quelque sorte que Keynes rêve un peu en pensant qu'on va avoir le plein emploi. Parce que dans une démocratie capitalistes, les patrons ont besoin d'avoir ce que Marx appelait une armée de réserve industrielle pour pouvoir faire pression sur les salaires. Donc Kalecki pensait que le plein emploi n'était possible que dans des dictatures où effectivement là vous allez imposer des conditions très strictes sur les salaires.
S'il y a moins de chômage, ça transforme les rapports de force, ça conduit potentiellement à une hausse de salaire.
C'est quelque chose qui est observé depuis très longtemps. Plus le chômage est faible, plus le pouvoir de négociation des salariés est important et plus les salaires augmentent.
Et en l'occurrence, Michel Kalecki évoque l'opposition des grandes entreprises au programme des grands travaux du New Deal dans les années 30, oui. Et cela alors même que ces dépenses gouvernementales entraînent une augmentation des profits.
Oui, donc c'était un des grands paradoxes, effectivement les grands travaux, les politiques de dépenses publiques profitent souvent aux grandes entreprises. Et Kalecki part de là et dit, mais pourquoi dans ce cas-là est-ce qu'elles ne soutiennent pas toutes ces politiques de grands travaux? Il explique ça comme ça, ils ont besoin d'un certain taux de chômage pour éviter que les salaires n'accélèrent.
Qu'est-ce que vous diriez de cette idée, Michel Berry?
C'est une idée qui convient assez bien à la situation d'une cinquantaine d'années où les travailleurs étaient des OS un peu indifférenciés. Mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas aujourd'hui. Quand vous êtes, je reprends, des entreprises confrontées à une vraie concurrence internationale, elles ont besoin de talents. Et s'il y a trop de chômage, c'est pas du tout sûr que les talents se forment.
Donc le niveau de chômage n'est pas aujourd'hui le principal déterminant pour négocier les salaires.
Pernille Giraud explique que les nomades ont intérêt à ce que les salaires des sédentaires soient bas parce que ça leur permet d'acheter des services pas chers. Donc il y a objectivement des intérêts différents entre les nomades et les sédentaires. Les entreprises sédentaires qui emploient des caissières, etc., elles ont sans doute intérêt à ce qu'il y ait du chômage. C'est pas pour autant que ça fasse des gens très motivés. Or, aujourd'hui, la motivation et la qualité de service sont des enjeux très majeurs pour les entreprises. I want a full-time job, making love to you. I'll do anything you want me to. But if you have no plan to use a full-time man, a part-time job will do. I want a lifetime job, being close to you, making all my dreams come true. But if your heart don't throb about a full-time job, a part-time job will do. You wouldn't have to pay me a nickel or a dime, as long as you would let me get in a little bit of overtime. I want a full-time job holding hands with you. I think you kind of like it too. But if your heart don't throb about a full-time job, a part-time job will do. I'll get it. Have to pay me a nickel or a dime, as long as you would let me get in a little bit of overtime. I want a full-time job holding hands with you. I think you kind of like it too. But if your heart don't throb about a full-time job, a part-time job will do.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était Full-Time Job de Tennessee Ernie Ford et nous poursuivons notre discussion sur l'utopie de l'emploi pour tous avec Dany Lang et Michel Berry. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de plein emploi? De quels emplois parle-t-on en entreprise, dans les administrations? Pour vous, Michel Berry, cet objectif de plein emploi, c'est en réalité un mythe dans le sens où la société n'a pas besoin de tout le monde pour assurer la production économique.
Voilà, pour assurer sa production économique, elle n'a pas besoin de tout le monde, comme l'avait anticipé Keynes. Et donc la question vient de qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas mobilisés dans la production économique ? Si on considère que c'est des inutiles, des gens en trop, il y a un vrai problème. Et comme ils sont nombreux, il y a un vrai problème politique, puisqu'ils votent, ils peuvent se révolter. Les élections récentes montrent que les gens qui se sentent pas bien insérés dans la société pèsent, voire même font élire des candidats improbables.
Louis Gallois, qui est aujourd'hui président de la Fédération des acteurs de la solidarité, disait que le chômage de masse, c'était un impensé du mouvement des Gilets jaunes.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec
cette
vision.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'emploi, mais c'est vrai que c'est derrière.
Mais alors, à quoi sert ce mythe du plein emploi et qui est-ce qui dessert? On a compris que c'était ces hommes inutiles que décrit Pierre-Noël Giraud.
Ce mythe du plein emploi, c'est l'idée qu'un jour, on résoudra le cancer dont souffre la société, et les économistes laissent entendre que c'est possible si on a assez d'audace. J'ai vu récemment un texte d'un économiste qui dit le gouvernement Macron n'est pas allé assez loin. Si on avait été encore beaucoup plus, des mesures beaucoup plus radicales, on se serait approché du plein emploi. Et je pense que premièrement c'est pas possible, deuxièmement c'est un mythe nuisible, ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'emploi sont soit ils l'ont fait exprès, soit ils sont vraiment mauvais, soit parce que si le plein emploi est possible, si ceux qui rentrent pas dans ce cadre-là, c'est des gens en trop.
Alors vous dites qu'en même temps il existe des besoins dans la société qui ne sont pas comblés et cela pose peut-être la question de ce passage de l'emploi à l'activité. Qu'est-ce que cela changerait, Danny Lang?
Alors moi je suis en désaccord pour dire que c'est un mythe nuisible. Ça dépend du type d'emploi dont on parle, parce qu'effectivement d'un côté on a des gens au chômeur, ceux que vous appelez des inutiles, et puis de l'autre côté vous vous retrouvez partout, on le voit tous à nos niveaux, tous les jours dans la vie quotidienne, des besoins insatisfaits. Et donc, il y a quand même un problème quelque part. Alors, une manière de répondre à ça, c'est de réduire le temps de travail, c'est de créer des emplois aussi. On voit bien aujourd'hui l'hôpital public est sous tension, pourquoi ne pas créer d'emplois publics. L'université voit ses effectifs augmenter régulièrement. Il n'y a quasiment pas de poste de maître de conf et de professeur.
On va vous répondre qu'il n'y a pas assez d'argent, il y a la dette.
Oui, mais justement, quand on crée de l'emploi, on crée aussi des rentrées fiscales. Donc, il faut cesser de faire comme si l'État était un ménage qui doit assurer l'équilibre de ses comptes. L'État n'est pas un ménage. Bien sûr, à long terme, il est plutôt souhaitable que l'équilibre des comptes soit là. Mais quand je dépense moins en tant qu'État, je touche moins aussi, ce qui n'est pas le cas pour un ménage.
Il y a en tout cas une expérience qui va dans ce sens, c'est l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée. Il s'agit d'un dispositif qui vise à mobiliser les fonds qui auraient été alloués à un chômeur, à une société qui va le salarier. C'est comme si donc les aides sociales se transformaient en salaire, comme nous l'explique Claire Hédon, la présidente d'ATD Quart-Monde, qui est à l'origine de cette initiative.
En tout, c'est 33 milliards d'euros tous les ans que l'État, finalement, est obligé de dépenser pour ces chômeurs de longue durée.
Entre
c'est
ce 15
que
ça et 20 000 euros par personne.
C'est pas la faute des chômeurs de longue durée, soyons très clairs. Mais c'est ce que ça coûte de fait à la société. Vous l'avez dit, un tiers de minima sociaux, un tiers de cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État et d'impôts qui ne rentrent pas. Et un tiers de dépenses à plus long terme, en termes de santé, en termes de violence, en termes d'impact que le chômage de longue durée a. Donc finalement, il y a déjà un coût. Donc à coût constant, on pourrait tout à fait embaucher ces chômeurs de longue durée. Donc dans une entreprise à but d'emploi. Parce que le but, c'est d'embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée du territoire. Cette question d'exhaustivité, elle est importante parce qu'il s'agit de pas laisser tomber des personnes de côté, justement d'inclure les plus pauvres et de pas se dire que les plus difficiles à remettre dans l'emploi, on va les mettre de côté. Donc c'est l'ensemble. Surtout, c'est au choix du chômeur de longue durée. Il n'y a aucune obligation, c'est vraiment très important de le rappeler. Il n'y aura pas, si la personne ne veut pas rentrer dans cette entreprise, elle continuera à toucher les minima sociaux.
Danny Lang, dans quelles circonstances est-ce que cette expérimentation a été mise en place avant d'en voir peut-être les effets positifs et les résultats?
Alors c'est effectivement l'association ATD Quart-Monde qui a beaucoup poussé, soutenu par certains. Vous citiez tout à l'heure Louis Gallois, il me semble qu'il avait soutenu cette initiative. C'est une initiative extrêmement intéressante puisque dans 10 zones expérimentales sur le territoire national, quand vous êtes chômeur de longue durée, c'est-à-dire de plus de 12 mois, vous avez le droit de vous adresser aux collectivités territoriales qui vont vous orienter vers des entreprises à but d'emploi, les EBE, qui ont été créées à cette occasion. C'est le chômeur qui choisit le nombre d'heures qu'il va travailler, C'est lui qui a droit à une formation. Il a droit à une formation dans ce cadre. Il peut quitter ce job à tout moment. Donc ça ressemble quand même beaucoup à l'employeur en dernier ressort dont on parlera tout à l'heure.
On va en reparler. Mais alors, quelles sont les activités qui sont créées, par exemple, par ces EPB, ces entreprises à but d'emploi?
Alors, ça dépend complètement du territoire dont on parle. C'est décidé complètement localement. C'est en fonction des besoins locaux.
Et alors, ce qui est important, effectivement, c'est de souligner que ça se fait sur la base du volontariat.
Oui.
Donc, c'est en partant vraiment des désirs et des compétences des demandeurs d'emploi.
Exactement comme le préconisait Minsky dans les années 70. C'est vraiment de l'employeur en dernier ressort. À ceci près que si on faisait vraiment de l'employeur en dernier ressort, on étendrait ce dispositif sur l'ensemble du territoire national. On ne le limiterait pas aux chômeurs de longue durée. Mais c'est déjà un pas intéressant dans la bonne direction.
Quel premier bilan peut-on en faire de ces 18 mois d'expérimentation, Michel Berry?
Cette expérience amène deux résultats importants. Le premier, c'est que les chômeurs de longue durée, pour la plupart, veulent travailler. Le deuxième point, c'est que quand on recense les emplois possibles, les activités possibles, il y a toujours beaucoup plus de choses à faire qu'on ne dispose de bras. Le problème, c'est de trouver une modalité de financement. Le troisième point, c'est que ce projet a été lancé par ce que j'appelle un entrepreneur, Patrick Valentin, qui a déjà eu cette idée 20 ans plus tôt et qui a presque réussi à la mettre en œuvre, il n'a pas réussi, il a fait que ça mûrisse, il a fait que ATD Quarante s'en saisisse, qu'une loi soit votée, et donc c'est un travail de longue haleine. Alors moi, il y a un point sur lequel je mets l'accent en ce moment, c'est ce que j'appelle les entreprenants. Ce sont comme des entrepreneurs, mais qui ne sont pas mus par un objectif purement économique, plutôt une idée du bien commun, et qui sont en train d'inventer partout en France des activités nouvelles qui créent des emplois ou créent des activités socialement utiles qui comblent les personnes qui sont impliquées. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a plus d'avenir dans le développement d'activités que d'emplois.
Juste avant de poursuivre, j'aimerais quand même souligner qu'un emploi de ce type devait coûter au départ 15 000 euros par an. Il coûte finalement 18 000 euros par an. Par rapport au coût des emplois du CICE, par exemple, c'est de l'ordre de 280 000, selon les estimations les plus raisonnables par emploi et par an. C'est très peu cher.
Parce qu'il faut expliquer qu'il y a deux sources de financement. D'un côté, le coût de la privation d'emploi, donc toutes ces aides sociales qui n'ont pas été distribuées, et en même temps, les bénéfices, le chiffre d'affaires des entreprises en question.
Oui, et d'ailleurs, il n'est pas exclu que certaines des entreprises créées, par la suite, puissent devenir marchandes. Donc, à ce moment-là, l'emploi sera pérennisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que si la personne retrouve une dignité, elle redevient employable. Et si elle veut partir, si elle trouve ensuite un emploi dans la fonction publique ou dans le privé, ben elle peut partir à tout moment.
Il y a peut-être une nuance à apporter quand même. Selon Alternatives économiques, le chiffre d'affaires et la rentabilité des activités qui ont été lancées demeurent encore très faibles. Et pour l'instant, c'est une expérimentation qui concerne 10 territoires. Oui. C'est encore assez restreint.
Mais le président de la République a annoncé que ça allait être étendu à 50 territoires.
Ce qui inquiète d'ailleurs beaucoup l'association, parce que passer vite à l'échelle, ça peut être une occasion de se casser la figure. Les ateliers nationaux ont eu un destin difficile.
En quoi on peut mobiliser l'exemple des ateliers nationaux en 1848 pour éclairer cette situation?
C'est-à-dire que les ateliers nationaux sont démarrés pour une idée de créer de l'emploi. Je connais pas le détail, mais je crois qu'ils ont bien démarré et qu'ensuite ça s'est beaucoup dégradé. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est à chaque fois un peu compliqué de mettre d'accord tout le monde sur le territoire, puis ensuite d'accorder les travaux à faire aux compétences. Donc ça demande beaucoup de réglages fins et un animateur de première qualité. Si on veut multiplier par 10, on peut faire comme animateur l'ami du député et puis d'avoir quelque chose qui se dégrade très très vite.
Oui, mais ceci étant dit, on dispose d'expériences de ce type dans d'autres pays, en Inde, en Argentine, en Éthiopie. On sait ce qui a fonctionné, et en particulier en Argentine, ça a fonctionné parce que ça a vraiment été géré localement, parce que l'expérience était transparente, c'était le plan GFES du début des années 2000, l'expérience était transparente, tout le monde pouvait savoir qui fait quoi, quelle était la valeur ajoutée pour la communauté, etc. Je pense que le problème des ateliers nationaux, c'est que on imposait des emplois aux chômeurs qui ne correspondaient pas forcément à leurs compétences. Et ce n'était pas assez délocalisé.
Vous avez cité l'économiste américain Minsky qui a développé cette idée de l'État comme employeur en dernier ressort, avec donc cette idée d'adapter les emplois publics aux compétences des chômeurs. Mais avant d'y revenir, Ayman Minsky propose une autre stratégie de sortie de crise. C'est celle qui passe par la relance étatique. Il hésite entre ces deux stratégies. Il privilégie tout de même cette idée de l'État employeur en dernier ressort. Mais pourquoi ne pas penser à relancer en tout cas à choisir cette première méthode proposée par Minsky, qui est vraiment une méthode keynésienne?
Alors, en tant que keynésien, je vois jamais d'un mauvais œil la relance économique. Le problème des relances économiques telles qu'elles se faisaient dans l'après-guerre et jusque dans les années 70, c'est qu'on relançait la dépense publique un peu pour tout et n'importe quoi. Là, l'idée, c'est vraiment de centrer la relance sur les personnes qui sont en difficulté. Les inutiles dont parlait tout à l'heure Pierre-Noël Giraud et dont parlait Michel Berry.
Mais toute la question, c'est est-ce qu'il faut d'abord soutenir la croissance pour créer des emplois, ou est-ce que c'est l'économie de plein emploi qui créera la croissance? En quel cas, est-ce qu'il faut d'abord privilégier le soutien à la croissance ou le soutien à l'emploi?
Les deux, à mon sens, les deux, l'un ne va pas sans l'autre, les deux vont de pair. Par exemple, si demain on décidait une relance ciblée pour faire vraiment la transition écologique avec de vrais moyens, ce serait un gisement d'emplois formidable dans ce pays et dans d'autres pays. Il y a beaucoup à faire, même si des pas ont été faits dans cette direction. Donc, à mon sens, l'un n'exclut pas l'autre. Simplement, l'avantage de ce genre de stratégie, c'est justement de s'adresser à ce que vous appelez les inutiles.
Alors, quelles sont les conditions à respecter pour que le principe de l'État employeur en dernier ressort, développé par Minsky, fonctionne? Je vous propose d'écouter Laurent Grand-Guillaume, le président de l'association Territoires Zéro Chômeur de longue durée, au micro d'Anne Fauquemberg sur France Culture.
On se rend compte qu'il est parfois difficile d'aller chercher certaines personnes qui ne croient plus en rien. Donc, il faut réussir à recréer du lien par des médiations, ça c'est très important. Il y a des personnes qui sont au chômage depuis 3-4 ans et qui ont vu parfois des promesses qui n'ont jamais été tenues. Hein. Donc redonner de la confiance. Et on est, nous, dans des emplois-formations. C'est-à-dire qu'on forme en situation d'emploi. On ne forme pas des personnes en disant « on vous promet qu'un jour vous arriverez quelque part ». Non, nous, on embauche les personnes en contrat à durée indéterminée sur un temps choisi et on les forme en situation d'emploi pour leur permettre d'acquérir des compétences supplémentaires quand elles en ont besoin.
Voilà, on l'a entendu, la formation d'une part et l'adaptation aux réalités locales de l'autre. C'est peut-être les deux conditions essentielles à la réussite du projet, Michel Berry.
De quel projet de...
Alors là, le projet, on est sur le projet du territoire zéro chômeur de longue durée.
Oui.
Mais plus largement, qui rejoint cette idée de ce principe de l'État employeur en dernier ressort.
Je connais pas bien ce principe. Pour moi, l'État n'est pas très bien armé pour s'adapter aux configurations locales. Et je ne crois pas beaucoup à un processus descendant pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, beaucoup plus à un processus ascendant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément d'activités qui naissent aujourd'hui. Il y a des entreprenants qui font des choses tout à fait inattendues que l'État n'aurait jamais pu imaginer et qui créent des activités ou des emplois ou apportent des réponses publiques importantes. Je ne sais pas si j'ai le temps.
Il y a un risque de trop grande verticalité. Qualité, pardon de vous interrompre, Dany Lang.
C'est un risque à prendre en compte. À mon sens, ça doit être impulsé par l'État, mais après, c'est vraiment le rôle des collectivités locales, c'est le rôle des communautés de prendre ça à bras-le-corps et avec les entreprenants, tels que vous les appelez, je suis d'accord pour dire que ça, une politique d'employeur en dernier ressort réussie doit être décentralisée. Les expériences, on a eu quand même une expérience à grande échelle qui s'est faite, on en parle très peu, dans ce grand pays socialiste qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, sous Roosevelt, vous aviez jusqu'à 5 millions de personnes qui étaient dans des dispositifs publics, qui répondaient à des besoins sociaux. Alors, c'était pas pleinement d'employeur en dernier ressort, parce que dans l'employeur en dernier ressort, il y a aussi l'idée que le salaire doit permettre de vivre. C'est un salaire digne, c'est un salaire qu'on appelle un living wage en anglais. Et ce que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est que le prochain pays qui est susceptible de mettre
mettent ça en œuvre, c'est justement les États-Unis d'Amérique. Les trois principaux candidats à la primaire démocrate se sont déclarés en faveur de ce type de mesure. Et c'est assez intéressant parce que nous, on en parle très peu, mais aux États-Unis, le débat est partout. Et même dans les États les plus conservateurs, vous avez plus de 50% des gens qui sont favorables à ça.
Il y a tout de même des économistes qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent que si ces programmes, comme celui du territoire chômage, zéro chômage longue durée, sont plus attrayants que le chômage, cela risque d'entraîner une hausse des salaires qui provoquerait ensuite une inflation si cette hausse se répercutait sur les prix. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique, Michel Berry ?
Oui, enfin, à un moment, j'avais proposé des mesures pour les gens qui sont au chômage et un patron m'avait dit « Ah, mais alors, vous voulez dire que les chômeurs pourraient faire des choses qui les intéressent ?»« Ben oui, pourquoi pas ?»« Ah, mais à ce moment-là, on aura du mal à les recruter. » J'ai dit « Ben oui, à ce moment-là, vous serez obligé de les séduire, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose. » On en est quand même encore loin. Moi, ce que il me semble, c'est sur l'État, sur la manière... Aujourd'hui, on est dans un monde qui se transforme. On n'arrête pas de le dire, on a une mutation. Ça veut dire qu'il y a un monde qui meurt, on en entend parler tous les jours à la télévision, puis il y a un monde qui naît et un monde qui s'invente. Et pour parler... Au fond... J'utiliserais bien assez une métaphore avec les start-up. On dit souvent les start-up naissent à partir d'un irritant, des gens qui repèrent quelque chose, qui agace des gens, qui montent un projet, une start-up, etc. Eh bien, il y a des entrepreneurs qui font la même chose. Il y a énormément de problèmes dans la société dont se saisissent des entrepreneurs, qui fabriquent des activités, alors associatives ou autres, et progressivement ça prend de l'ampleur. Et c'est pour moi, c'est ça qui est en train de transformer la France, et ça qu'il faudrait que l'État appuie. J'ai pas eu le temps de prendre d'exemple, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Il y a des exemples franchement étonnants d'activités qui sont extrêmement utiles socialement, très valorisantes pour les personnes, dont certaines créent pas du tout d'emploi pour elles, mais elles les mettent dans une activité où elles se sentent utiles. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est personne seule, personne inutile.
Et c'est de la crise que pourra naître la solution. Un dernier mot, peut-être rapidement,
Daniel Lang. Très rapidement, moi je ne crois pas du tout à ce risque d'inflation, on en est très loin. Une vue raisonnable là-dessus, c'est que tant que la hausse des salaires ne dépasse pas les gains de productivité, il n'y a aucun problème. Il faudra veiller à ça, mais ça ne me paraît pas de nature, on en est très loin. Justement, on a un problème de décrochage des salaires dans un certain nombre de pays, heureusement la France y échappe, par rapport aux gains de productivité. Donc, on en est très loin des risques d'inflation.
C'est l'heure de retrouver les nouvelles de l'Écho avec vous, Arjuna Andrade. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une proposition formulée par l'économiste Bernard Friot qui entend dépasser la question de l'emploi et donc du chômage.
Exactement, avec sa proposition de salaire à vie, l'économiste et sociologue Bernard Friot entend renverser la logique classique qui relie emploi et salaire en proposant que les individus se voient conférer à leur majorité une qualification donnant droit à un salaire, et ce, quelle que soit leur activité. Ce dispositif s'appuie ainsi sur le constat que le travail est omniprésent dans nos sociétés, même s'il ne s'intègre pas nécessairement dans une logique d'emploi. Il ne s'agit donc plus seulement de répartir la richesse produite par le travail, mais bien de rémunérer l'activité. On pourrait ainsi prendre l'exemple des travaux ménagers, comptabilisés ou non comme une activité économique, selon qu'ils sont effectués à titre privé ou rémunérés par un employeur. Nous sommes donc en permanence en train d'exercer une activité, et c'est, selon Friot, ce qui fonde la légitimité du salaire à vie. Le principe est donc assez simple, un salaire octroyé à tous et de manière inconditionnel tout au long de la vie.
Mais alors comment propose-t-il de financer ce dispositif ?
Pour financer ce système économique, Bernard Friot propose de placer l'intégralité de la valeur ajoutée produite par les travailleurs dans une série de trois caisses. La première dédiée au salaire, la deuxième à l'investissement, la troisième au financement de services publics gratuits. Ce ne seraient donc plus les entreprises qui paieraient les salaires, mais bien une caisse sociale alimentée grâce à la richesse produite par l'ensemble de l'économie. Une rupture fondamentale puisqu'elle permettrait de remettre en cause les logiques de pouvoir inhérentes au marché du travail.
Le salaire à vie porte en effet une critique radicale du marché du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
Exactement, tel qu'il fonctionne et tel qu'il est pensé par les modèles économiques classiques. Bernard Friot critique ainsi un modèle où les travailleurs qui produisent la valeur économique sont soumis au bon vouloir de ceux qui détiennent le capital. Ils sont obligés, pour pouvoir survivre, de chercher un emploi qui bien souvent n'existe pas ou dont ils sont sciemment écartés. D'autant que contrairement aux théories classiques, le marché du travail n'est pas le simple lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Ce n'est pas un dispositif neutre de mise en relation des agents économiques. C'est avant tout une institution avec ce qu'elle comporte de règles et de rapports de pouvoir. Les chômeurs subissent un contrôle de plus en plus fort et les salariés eux-mêmes sont sommés d'être flexibles, agiles, disponibles, égard à ceux qui ne voudraient ou ne pourraient pas se plier à cet impératif, relégué au chômage de longue durée, ces fameuses trappes d'inutilité développées par Pierre-Noël Giraud. Il est donc nécessaire, selon Bernard Friot, d'émanciper le travail en distinguant clairement le salaire permettant de vivre décemment et l'emploi, à la fois rare et outil de pouvoir.
Une nécessité de dénouer le salaire et l'emploi qui s'ancre d'ailleurs, selon Friot, dans la longue tradition du mouvement syndical du XXe siècle.
Mais oui, pour Bernard Friot, le salaire à vie existe même déjà. Il qualifie ainsi les fonctionnaires de dernier bastion du salaire à vie, puisque le salaire dans la fonction publique n'est pas rattaché à leur productivité, mais bien à leur personne, à leur statut. Les fonctionnaires sont donc rémunérés au nom de leur utilité pour la société, et non selon une logique purement économique. Bernard Friot propose donc de généraliser ce modèle et d'offrir à l'ensemble des travailleurs les droits et les protections dont bénéficient les fonctionnaires, à commencer par l'assurance d'avoir un travail, car c'est bien l'une des questions fondamentales auxquelles le salaire à vie entend répondre, celle du chômage de masse et de longue durée, pris aujourd'hui comme une fatalité dans un système économique qui le produit et le légitime.
Merci beaucoup Arjuna, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Et j'accueille maintenant notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour et bonne année.
Et bonne année à vous, vous êtes venu avec le chiffre du jour, 1 430 000.
Oui, c'est le nombre de personnes de plus de 50 ans qui sont inscrites à Pôle emploi en novembre 2018. Et ils sont trois fois plus nombreux qu'en janvier 2008. Alors que les moins de 25 ans ne le sont eux que, entre guillemets, 1,4 fois et les 25-49 ans 1,7 fois. La durée d'inscription des plus de 50 ans à Pôle emploi est de 580 jours, 1 an et 7 mois, en moyenne contre 137 jours pour les moins de 25 ans et 312 jours pour les 25-49 ans. Bref, les seniors, comme on dit, ont été de très loin les principales victimes des 10 ans de crise que nous venons de traverser.
Et alors pourquoi est-ce que c'est le cas à ce point ?
Eh bien, les effets négatifs massifs de la crise de 2008 sur le marché du travail ont été renforcés ensuite à partir de 2010 par la crise de la zone euro. Et cette stagnation prolongée de l'emploi est intervenue en même temps qu'entraient en vigueur les réformes des retraites prévoyant l'allongement à 42 ans des durées de cotisation nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. Ainsi que la réforme de 2010 fixant à 62 ans l'âge minimum pour pouvoir partir en retraite. C'est ce qui a obligé les seniors à rester nettement plus longtemps sur le marché du travail. Le choc frontal entre ces deux tendances contradictoires a engendré cette explosion du chômage des seniors. Tous les pays développés ont certes eux aussi mis en place des stratégies similaires, mais la plupart d'entre eux ont en général une démographie moins favorable que la France. De plus, ils l'avaient fait quelques années avant nous et l'effet négatif de ces stratégies avait été le plus souvent amorti par la bonne conjoncture des années 2000. Enfin, ceux qui ont pratiqué cette politique avec le plus de succès, c'est le cas notamment des pays scandinaves, ont accompagné cette évolution par de profondes transformations de l'organisation et des conditions du travail au sein des entreprises, négociées entre patronat et syndicats, afin que ces conditions deviennent compatibles avec la présence des seniors.
Et rien de tout cela n'a été fait en France, Guillaume.
Et non. Nous avons depuis longtemps déjà un faible niveau de négociation sociale et des institutions représentatives du personnel qui ont très peu de pouvoir dans les entreprises. Mais la tendance générale des dernières années a été d'affaiblir encore les contraintes qui pèsent sur les chefs d'entreprise en la matière, en facilitant les licenciements, en éliminant les comités d'hygiène et de sécurité, et cela dans un contexte de division et d'affaiblissement croissant du syndicalisme. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, ce sont les seniors qui en ont fait les frais et ont été mis à la porte massivement. Tandis que les entreprises continuaient parallèlement à rester extrêmement réticente à les embaucher une fois qu'ils étaient devenus demandeurs d'emploi. De plus, ce problème spécifique du chômage des seniors n'a absolument pas été pris en charge par les politiques. Ils ont continué le plus souvent, comme François Hollande en particulier, à mettre l'accent plutôt sur la question du chômage des jeunes, considérée sans doute comme plus vendeuse, entre guillemets. Ces difficultés aggravées et non traitées des seniors sur le marché du travail ont joué sans doute un rôle non négligeable dans l'éclatement de la réforme de la révolte des Gilets jaunes.
Merci beaucoup Guillaume et je renvoie les auditeurs au dernier numéro d'Alternatives économiques qui s'appelle Fracture, la France malade de ses inégalités. Well, I was born on a Sunday. On Thursday I had me a job. I learned right from wrong.
se quitte sur The Working Man de Creedence Clearwater Revival. Merci beaucoup Michel Berry et Danny Lang de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est la fin de notre série consacrée au chômage. On se retrouve demain pour parler des aléas du projet de fusion d'Alstom et de Siemens. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. I don't mess around with magic, child. Well, I got it. Whatever you say, Lord. Well, that's what I'm gonna do. Whatever you say. Well, that's what I'm gonna do. Well, I'm the working man. Well, I do the job for you.